ali pela porta para eles levarem a bagagem.
Dear colleagues, may we begin? Nem esse quem é que morre. Quem é que... So, dear colleagues, may we try to begin. We are at point 9.3 about the amendments to the IPU statutes and rules. And we have, may I say, three amendments. One proposal by the Executive Committee about the young MPs, the participation of young MPs. Other group is submitted by the IPU President, and the first one by the Russian Federation. So, and after it, you have a lot of sub-amendments, of course. But this is the amendments that we have. About the young MPs, before I give the floor to all of you, of course, about the young MPs, is not new. We have this a discussion about it in St. Petersburg, if you remember. And the proposal allows us to have to enlarge the delegation and to have more time to speak if includes in each delegation a young MP. The IPU presidents have amendments that we may put in three groups. One about the statute of IPU, other about the strategy of IPU, and finally the language. The Russian Federation is just about the language. So this is more or less the amendments that are presented. I know also that the President, Gabriela Cuevas, is available to be in our meeting in Geneva herself to present the amendments if we agree on that. So, you have the floor. Someone wish to talk about it? Kristen?
Are we talking about everything or only this to start with?
Of course, it's a methodology. We may separate, if you wish, we may not to put all the amendments together, but about the first one, about the youth participation. Someone wish to talk about it? No. Okay. I think it's specific. We go aware. So, the second group about the amendments presented by the IPU president. Someone wish to talk about it? Kristen?
Gabriel. Okay, I need to check so I say the right name. When we were in UN a week ago, I had a talk with Gabriela about this situation. I don't really like this at all, because as I understand it, it's a problem between two individuals. And that problem had started this way of solving it. And for me, it's not about Gabriella or Martin. It's not about the persons, the people. For me, it's about the organization. We should have statutes and rules that's working, not depending on who we elect. So I want to make that clear to start with. I don't have any problem at all changing the statutes and the rules if it is better for the organization. But I don't want to have new statutes and rules that makes it more difficult for the organization to work. So that's my main point. After that, I want to go into different suggestions. I hope you remember for an hour ago I talked about the strategy. I don't like a strategy that is 3 years. Why? I'm going back to myself. When I'm talking with the authorities in Sweden and try to make them to understand that IPU is a good organization, they are doing a good work, and we should contribute to them. We do it towards the strategy, not different programs. We give the money to the organization to make it possible for them to fulfill the strategy. We do it in the way that we are having a discussion about the strategy and if it works together with what my country wants to happen around the world. If it is a 3-year strategy, this will mean, for us, it will be the end of a 3-year term of giving contributions. Because we need to see the strategy, we need to have the discussion, let us say it take half a year, something like that. Then we will have a decision, and suddenly it's something about 1 year, 1.5 years left on the strategy. So we can't give money on a long year term anymore. I want to have a 5-year strategy so we can work towards authorities to make it possible for a long term of voluntary funding. And what I mean with a long term, it's 3 years. So I think this is a bad, for us, it's a bad suggestion. The result will be that we can't give money in this way as we are doing today. And please remember, we give about 10% of today's budget to IPU. I just want to explain the problem that we are creating with this suggestion. I don't like that there are a suggestion that is talking about the president when it comes to the strategy, because for me it's not about the president, it's about the organization. So when the decision is supposed to be taken, it shouldn't be depending on when you are electing a new president. So I don't like that either. When it comes to responsibilities, that's the first problem again. Please don't make it more problematic for the organization to work. Because we do have an organization that we have an ex-com who are supposed to be working both before but also between meetings. They could give the opportunity and the responsibility to the president, to the vice president, and to the 6 vice presidents how to manage this work. Don't make it more difficult for them to do that. Make it more easy instead. Not putting everything in these statutes and rules, because then you are binding them instead of helping them, in my opinion. So that's some opinions from me. So now, please, others.
Thank you very much. Margaret?
Monsieur le Président, chers et chers collègues, je n'étais pas à New York pour les auditions. Par contre, je partage beaucoup d'éléments qui viennent d'être dits par mon préopinant. En ce qui concerne la position de la délégation suisse par rapport à ces amendements, nous avons, comme d'autres délégations, également adressé une lettre en date du 14 février que vous trouvez dans la documentation. Étant donné que les amendements proposés notamment par notre présidente, que nous estimons beaucoup, ces amendements ont une grande portée sur l'avenir de l'UIP. Nous pensons, comme mon homologue suédois, qu'il faut pas compliquer les choses, qu'il faut pas non plus personnifier les choses. Je ne vais pas entrer sur le fond. Je voudrais simplement vous faire part de notre recommandation sur la procédure, à suivre. La délégation suisse, confrontée à la multitude et à la portée des amendements présentés le dernier jour du délai possible par notre présidente nouvellement élue, vous propose et vous recommande donc de présenter une recommandation de la part du groupe des 12 plus, de la part de notre comité directeur du groupe 12 plus, de recommander au comité exécutif de créer un sous-comité composé de représentantes et représentants de tous les groupes géopolitiques. Ça peut être même un groupe relativement petit, un sous-comité relativement petit, mais où des représentants et des représentantes qui adorent faire ce travail, ça peut être des juristes, des constitutionnalistes ou d'autres personnes, bien sûr, déléguées par les groupes géopolitiques, qui analysent d'ici l'automne cette multitude d'amendements et de sous-amendements auxquels nous sommes confrontés et qui présentent leur analyse et leurs propositions qui résulteraient, après analyse soigneuse, au comité exécutif en automne. Voilà une marche à suivre qui nous semble être soigneuse, pragmatique, ne pas tirer les choses en longueur, mais analyser soigneusement. Je prends juste le point des langues. En augmentant les langues de travail, par exemple, il y a déjà dans la documentation des estimations de coûts supplémentaires. Si en automne, l'Assemblée d'automne serait d'accord d'augmenter le nombre de langues de travail, bien évidemment, il faut que ça puisse correspondre aux rubriques correspondantes dans le budget de 2019. Sans ça, il faudrait que ça puisse correspondre au plan financier pour 2020. Voilà. Donc, allons-y, mais soigneusement, avec l'institutionnalisation d'un sous-comité du comité exécutif. Merci. de votre attention.
Thank you very much. I may say something. First of all, all our statutes, the amendments are presented according with our statutes 3 months before the assembly, so it's not on the last. We have time to read, to study, and to discuss it 3 months before the assembly. And all members of IPU received the amendments and have time to present sub-amendments. If a delegation don't agree with something, it's time, because just 9 weeks before the deadline is 9 weeks before the assembly. So it's not something done by in clandestine way. It's very open how it was presented. But of course, the statutes, what the president proposed, I know that changed a lot the procedures of our institution, and I know it's not pacific. And that's why we have discussion here, and I think we'll discuss it again in Geneva and in the future. About the language, as a member of the president of the Portuguese delegation, I wrote to all parliaments and to all delegations itself, and also to all Portuguese ambassadors all over the world. Why? Because something. First of all, I think that we elect, and this letter is equal to all of your parliaments. It's the same. That's why it's just an example. Why? First of all, the president, during her campaign, she said also at the 12 plus, I think that some of you have been there in St. Petersburg, when she told that she will propose it. So it's not something new. She told it. And she was elected with 80% of the votes. After it, we understand quite well that cost it's very important. And so, in executive committee in Geneva, we make a transformation, may I say, with the Russian delegation. And so we forget the official language and we propose just working language. It's completely different. Because official language means that all documents should be translated. Working language is not about the translation of documents, about translation in websites and so on. It's just interpretation. So it's different. It's easy to understand that. But it remains the costs. Okay. And that's why we think about the rules, how to contract the service. Because as I like to work with figures and not just with words, we decide to ask for two different companies to give budgets to the program of in Geneva, for instance. We took the program next March in Geneva and we say, if we have this language, how much it will cost? With credential companies. And the bill is lower than what IPU is paying right now with less language. So, if we wish to save money without the Portuguese, we may save money in Geneva in the next 3 weeks. It's possible to save money. It's just to contract direct the service. And we did the same also with our 12 plus. In St. Petersburg, we paid 5,300 euros to IPU to have the French and English. Now we decide to contract directly. We will pay 2,000 euros. So, it's possible, if we wish, to have more language and don't spend more money. Of course, I understand that if we will do the same thing as always, we will need more money. If we will contract the same teams and more for Portuguese, for instance, we will need more money. If we are available to change the way we contract the service, we'll save money. I understand quite well that it's better to do as always. As always. If we wish to be as always, of course, we need more money. Kristen?
For me, when it comes to translation, it's not only the money.
Translation or translation? Sorry.
Okay, both them. Both them. It's not only about money. For me, it's first thing is quality. Next thing, it's money. Because I don't want to travel with my delegation around the world paying millions each year and having a bad translation. I was in Buenos Aires in December. Not so good, but it was the host who gave us the translation. Not so good. So I want to be certain. So in my mind, if we want to do this, we talk about how to organize it first. Having a contract first to see what will happen if we change the system. I remember when we had the candidate then in our group. I asked her on our 12-plus group meeting how we were supposed to pay for more languages. She told me in my face that it will not be more expensive than today. Okay, deliver that first. Then I can accept the proposal. Because I want to see how it works before the decision comes. Because I don't want to have a lot of money spent on translations. I want to spend the money on activities. Activities that we have decided in the strategy. That's my main purpose when it comes to IPU. And I have seen this letter, and I can understand. I would like to have all the information in Swedish, if it was possible. It is possible, if we are prepared to pay for it on our own. So I wonder, and I can put a question to the chair now. I understand the arguments. How much are the Portuguese-speaking languages and countries prepared to pay for having this translation on their own? Because it's easy to ask for it if someone else pays. But if all six or eight countries, whatever, are prepared to say it and say that it's so important, how much are they prepared to pay for it to make it possible in Portuguese? Thank you.
I will give you an answer and then take the floor, please, because it's not a mere discussion between them. First of all, right now we are paying it, all the Portuguese countries. We have interpretation in Portuguese. And we make a quota for we respect the GNP of each country. Of course, Brazil and Portugal pay much more than East Timor, but we cover the costs ourselves. So we are paying right now. It's not a problem. But what we think, you have here one of the bets that we ask for, is that it's possible with some money and with the quality. Of course, quality is important. Of course, if I invite a friend from school or a neighbor to be interpreters, the quality maybe is not assured. But if we contract credential companies, the quality is assured, of course. And so that's why I think if we wish, is possible two things: to keep the same language, have quality, and save money right now, or pay the same as we are paying now and have more language. It's possible if we contract directly. If IPU contracts, if IPU go to the market, ask for proposals and did the job. If IPU did the same as always, and what do I know? They have two persons, and they ask these two persons, as always, to invite others to be part of the team. It's the way to do it. No one cares. No one cares. And we are paying it right now. But please take the floor. And this is not just that the amendments we have, right?
Yes, Chair. Dear colleagues, a lot of things have already been said. I have still some remarks. First of all, the Belgian delegation stands by the position it has taken in its national response to the proposals, and which is basically the same as that of most other delegations that have not presented sub-amendments but comments. Changes to the rules and certainly the statutes of our organization require a large consensus. In these matters, text changes can only be the final stage of a discussion. We should first discuss the ideas one aims to implement and build consensus around that. The amendments were presented to us without any justification. And then, if we wanted to meet the deadline for submitting sub-amendments, we were obliged to do so before having had the chance to discuss the issues involved with our colleagues. The IPU president explained her motivation to me in New York, but all delegations are entitled to these explanations. If all the required discussions can be completed with a large consensus emerging before the end of the assembly in Geneva, as the IPU president thinks, so much the better. The Belgian group does not want to postpone for the sake of postponing, and will then be happy to vote in favour or against all remaining amendments and sub-amendments at the last council meeting. But there is a real problem. A week looks long, but is not so long as we think. First, the geopolitical groups are only going to meet after the first meeting of the Executive Committee, so any conclusions at that first meeting of the Executive Committee will be indicative at best. Second, the geopolitical groups, supposing they arrive at firm conclusions, will not necessarily have identical views. A further compromise will then need to be found, either within the Executive Committee and at its meeting one day before last of the Assembly, which would be best, or by the geopolitical groups themselves. Then the compromise solution will need to be committed to paper in two languages, so it's clear to everyone what it is. Otherwise, the final council session will be a complete chaos. And all this is supposing that everything in the compromise will be found somewhere in the amendments or sub-amendments that have been presented.
because according to the rules, it is not possible even for the executive committee to come up with any new text if the decision is to be taken in Geneva. Judging from previous changes to the working methods of our organizations, that would be a miracle, but we can always try and hope. Then there is the problem of the personalization of the IPU strategy, and I don't open the floor here for the discussion between the President and the Secretary General. And the last thing I won't be too long is the question about the languages on our position, and now we have got a new document. I can say very clear that if the Belgian delegation have to pay more for whatever, I think it will not pass through the Parliament. Thank you.
David, please, take the floor. The floor is yours.
Thank you, Mr. Chair. Colleagues, many of us were in Geneva for the last meetings. And I want to walk through the door that's been opened by my colleague from Sweden and from Belgium. Whether we like it or not, it appears as if the perception is that there's a major personality conflict between our President and our Secretary General, which is not good for the organization. And it's unfortunate. We have a very dynamic, energetic, young president. We have an experienced professional in our Secretary General. And for some reason, one reason or another, they don't appear to have been able to manage their relationship well. And that's unfortunate because, as I said, in Geneva, we live in a very, very competitive world. And the IPU has got to work very hard to reestablish its credibility. I know in Geneva, Robert mentioned the United Nations Parliamentary Assembly idea. I've since had a chance to get briefed at length on where that proposal is going or is not going as part of the United Nations 2020 reform package. One of the five key points is to create a whole new United Nations Parliamentary Assembly. We'll see. But on this, I'm with Margaret. I think we need to dial it down. We need to turn the volume down. And I think we need to slow it down just a little bit. When a donor country represented by Christer 10% of IPU says they may have a problem, we should listen, because that's a problem. I had our legal team in the House of Commons and the Senate go through all of the amendments, and some of them are pro forma, and you're right, Mr. Chair, they're all in order. They've all been tabled at the right time, or the sub-amendments, the right time. But I think we ought to work hard to avoid a crash in the meetings in Geneva, which cannot be good. Nothing good will come from this except more division. So, for example, when there's talk of the Young Parliamentarians Amendments, fine, that's simple and seems to be easy to address. When we talk about the IPU's legal personality, our general counsel says, you don't have a problem at the IPU with your legal personality. You've been signing contracts forever. What is this actually trying to address? I don't know. On the other hand, the United Nations doesn't recognize the IPU as an international organization. Okay. When it comes to the role of the IPU president, these are really big changes. These are significantly altering the role, the statutory role of the IPU president. And this is causing just shaking up an existing order, you know? And so that's a little dangerous. But if the president is going to take on more day-to-day operations of the organization, that means a lot more time. It means staff for the president. It means more budget for travel for the president. It means the president is taking on more of the executive functions, which is traditionally set aside for the chief executive officer. Now, as Rabia pointed out in Geneva, one of the challenges we have is we have a two-headed governance system where both are elected by all of the member parliaments, which is an unusual creature because typically the CEO is recruited and an error perhaps, and interviewed and then appointed with a contract, with terms, etc. We don't have that. I'm of the view we need to slow this down a little bit. Not shelf it, not say that we're not going to address these important questions. But I think we need to take Margaret's wise counsel and look for a smaller working group. Because one of the things that happened in Geneva as well is the president made a very, very impassioned presentation for those who were not there, pages and pages and pages of overheads, putting out what I would describe as her aspirations for the organization. This is a good thing. It's a good thing. It's pulling us up and forward. But her aspirations, as they were laid out, did not take into account necessarily what the IP was already doing. We don't know how these can connect or not. And certainly the aspirations did not speak to the costs. Taking on more roles, taking on more representational work, training more parliamentarians, this has significant pecuniary consequences for the group. And as Kirster said many times, who's going to pay? Now, Mr. Chair, you talk about the language question. The Secretariat responds by saying the additional financial costs of the proposal are estimated at 3.5 million Swiss francs per year. I don't know whether to take that at face value or not. I don't know if that's right or wrong, but this is what the Secretariat, I believe, is responding with. At least that's what my team is telling me about. The additional costs. So I don't know whether that's true or not true, but I would be helpful to get a smaller group to tone this down and not take it into the assembly. And finally, I always want to put this out. When it comes to money and the costs and the things we want to do, for these, an organization like the IPU, for any business, you really only have two choices. You either fight over getting a slice of pie in a pie of the existing and same size. That's option one. And option two is you agree to grow the pie and go out and get more revenues for the organization. And there are ways to do that. And I'm not sure what's being done right now at head office in terms of reaching out. I see some lists of some specific donations and programs. We talked a little bit about that in Geneva as well. Increasing the revenue sources. If you increase your revenue sources, well, then the costs for languages and interpretation become negligible. If you can. So my suggestion is that we take the advice of a number of countries who have sub-amended, who said, why don't we just sort of slow this down a bit, have a discussion and not drive it to a decision point, which I don't think will be productive. I'm a little worried about what might come in Geneva. And those are my instinctual reflections, Mr. Chair.
Thank you. Before I give the floor to Robert, just to say, the answer of the Secretary General about the 3,500,000 Swiss francs, two things. First, is if we accept the proposal of the President, Spanish, Arab, and Portuguese as official language, because if we have more three official language, is also the translation of all documents. That's why they talk about 3 million Swiss francs. But I think that this proposal is no one will support it. Because I think all of us, not just members of the 12 Plus, but all members of IPU, are not available to pay more to the IPU. That's why the sub-amendment that we have right on the table is not official language, but working language. And we have now Arab and Spanish as working language. So it's just the Portuguese, the difference from the present status. So we will keep French and English official language, translation and interpretation. We have the Spanish and Arab right now with working language. We'll put Portuguese also working language. So we never, we talk about 3 million euros about it. And that's why we try to prove with this kind of proposals that it's possible to have one more working language, Portuguese, Swedish, or other language, without increasing the costs. It's possible. Of course, if it's better to test it, I agree on that. That's why we ask for proposals. But if you create a subcommittee may also study and make ask for proposals about it to be sure that it is possible to have one more working language without rising the expenses. It's something that is better, for instance, to be sure before we make a decision, as Christian said. But Robert, please.
Well, alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais recommencer. On va d'abord éliminer les problèmes. Je crois qu'il vaut mieux voir ça comme ça. La faute revient aux gens de l'UIP qui ont pris un jour une décision dans le comité exécutif dont je faisais partie, mais à ma décharge, j'ai voté contre. Donc j'ai la conscience tranquille. Mais à mon avis, c'était quand même une erreur lorsqu'on a décidé qu'on ferait voter pour le secrétaire général. Je trouve que c'est contraire au fonctionnement des autres parlements. Nous avons tous un secrétaire général dans notre parlement, enfin nous en tout cas, et tout le monde au Sénat, à l'Assemblée, il n'est pas élu. Il est désigné, proposé par le président et désigné par le bureau. Mais c'est une désignation. Et donc, il est responsable de son engagement envers les parlementaires qui dirigent l'Assemblée ou le Sénat. Je pense que ça fonctionne bien dans les autres assemblées. Et nous avons, vous le savez, en parallèle à l'UIP, la réunion des secrétaires généraux. Nous avons les secrétaires généraux qui se réunissent en parallèle aux réunions de l'UIP. Peut-être les nouveaux ne savent pas tous, mais je le rappelle, il y a une réunion des secrétaires généraux. Et à mon avis, le secrétaire général devrait être et présider peut-être aussi cette réunion, ou participer en tout cas aux travaux. Mais c'est un administratif, et ce n'est pas un élu. Les responsables sont les élus. Et les décisions que nous prenons sont des décisions d'élus. Que nous prenons ici, nous sommes des élus. Donc, on a donné ce pouvoir au secrétaire général, qui est une erreur, à mon avis, une erreur de fonctionnement. Le secrétaire général est élu par l'Assemblée générale, avec plus de voix que le président, souvent, et donc se sent, et je le comprends, il se sent élu. Il se sent élu et il se sent responsable envers les personnes qui l'ont élu, comme nous sommes responsables envers nos électeurs ou nos grands électeurs. Donc, je comprends sa position. Il se dit, moi, j'ai été élu, je suis responsable devant les autres parlementaires et je prétends avoir telle et telle capacité et telle ou telle compétence pour le faire. Bien. Maintenant, mes chers collègues, il faut rester humain et normal, disons, et ne pas faire quand même des grandes histoires parce que au début, ça marche pas toujours très bien entre deux personnes. Qui n'a pas eu des petits problèmes avec ses assistants ou ses copains ou ses dans un truc. Au début, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ensemble. Moi, je suis persuadé que même s'il y a eu quelques flottements et quelques petits conflits entre guillemets entre le secrétaire général et la présidente, je pense que c'est une chose qui devrait rentrer dans la norme dès qu'on aura fixé un peu le cadre dans lequel on pourrait travailler ensemble, où ils pourront travailler ensemble. Moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'on ne va pas passer 3 ans de dispute entre le secrétaire général et la présidente. Bien. C'est à nous, responsables, que nous sommes, de faire en sorte que ça se passe bien. C'est à nous à leur dire, écoutez, on est d'accord, mettez-vous d'accord là-dessus, on est d'accord sur tel point, pas d'accord sur un autre, voilà. Donc on a une certaine responsabilité. Je pense que ça peut bien marcher. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le secrétaire général vient d'être reconduit pour 5 ans. À la fin, il va avoir encore 5 ans à faire. Donc il est là pour la durée, encore. Et donc il a intérêt aussi à ce que tout se passe bien pour l'UIP et nos relations entre lui et nous. Pas seulement la présidente. Il faut que ce soit. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, président. Le deuxième point, c'est, je crois que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de tout le groupe des 12+, et pas seulement des personnes très représentatives qui sont ici, mais il faut qu'il y ait un accord global des 12+. Si je regarde ce qui se passe et les réactions, je pense qu'il faut trouver un consensus. On n'arrivera jamais à être tous d'accord sur tous les points, mais trouver un consensus pour accepter un minimum qui soit acceptable par tout le monde. Je pense, président, que là, on a un rôle à jouer, vous avez aussi un rôle à jouer, de bien défendre la position des 12+. On est d'accord avec la présidente, mais il faut qu'on lui explique, les 12+, c'est pas une personne, c'est tout le monde. Et là, il faut trouver un consensus pour expliquer, bien expliquer ça à la présidente, et je crois que ça peut très bien marcher aussi. Alors il y a des amendements, on n'est pas d'accord sur tout, bien sûr, il y a des amendements qu'on peut modifier, il y a des choses qui sont à discuter. Bon, qui c'est qui a parlé? Je crois que c'est David qui a parlé de la personnalité juridique. Oui, mais attention, il faut bien préciser, parce que là le texte ne précise pas très bien. Personnalité juridique pour la signature d'accords internationaux. Si on se limite à ces mots-là, ça va très loin. Parce que ça veut dire quoi, les accords internationaux? On peut signer des accords internationaux avec des pays qui nous impliqueront des responsabilités. Je veux dire une bêtise. On signe un accord avec la Corée du Nord, parce qu'on pense que c'est bien, il faut développer la démocratie en Corée du Nord. Est-ce que ça va être un point positif pour la communication de l'UIP dans le monde? Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut que les accords internationaux n'impliquent pas une responsabilité. Je ne parle pas des engagements financiers. On peut avoir des accords internationaux qui nous impliquent des engagements financiers à respecter. Il faut être assez prudent. Sauf à préciser sur quoi portent les accords internationaux. C'est précisé un peu plus loin. Mais il faut bien le préciser au début. Je crois qu'il faut que ce soit limité à certains accords internationaux avec les organisations internationales, les Nations Unies et autres, mais dans une limite qui est... On nous a demandé, lors du dernier comité exécutif, je ne sais pas si vous vous souvenez, la présidente, on a évoqué l'avenir de l'UIP en tant qu'organisation internationale ou non. Organisation internationale ou non gouvernementale, ONG, etc. Donc on nous a demandé à Constantin Kozachev et à moi-même de vous préparer un papier que l'on finalise maintenant ces derniers jours, et nous allons le transmettre aux membres du comité exécutif de façon à ce que vous pouviez avoir un regard et nous donner votre avis sur ce texte que nous avons. Vous verrez, c'est un texte assez équilibré et neutre dans la position, mais donc ça vous permettra de voir comment nous voyons, après c'est vous qui décidez, mais de voir comment on peut avoir la représentation de l'UIP. Je continue, président, mais j'en ai bientôt terminé. Je voulais seulement vous préciser cela parce que ça vous intéresse. Alors, les amendements, on peut en discuter. Je suis d'accord avec Margaret. Il faut qu'on étudie ça d'un peu plus près, de façon à ne pas adopter quelque chose immédiatement et qui provoque, après, un peu plus tard, Moi, je veux éviter de faire la même erreur que de faire voter pour le secrétaire général. Voilà. Donc, faut pas prendre des décisions rapidement, trop rapidement, qui après auront des conséquences. Et surtout, faire en sorte, président, mais là, c'est ton travail, c'est le travail du président de voir qu'il y a un consensus dans les 12 plus, même si pas tout le monde est d'accord, d'arriver à un consensus pour ça, mais je sais que tu vas le faire et tu vas bien le faire. Maintenant, les langues. Et j'en aimerais terminer avec les langues. Alors, j'ai eu quelques précisions en ce qui concerne le fonctionnement de l'UIP pour le choix des trucs. Je ne parle pas du prix, mais le prix, on le connaît. Alors, c'est vrai que l'évaluation à 3 500 000 supplémentaires, pour le, c'est traduction, interprète, c'est le chiffre maximum qu'on met en avant entre nous. C'est pas au compte rendu, entre nous, pour dire, vous voyez, c'est pas possible, donc c'est pas la peine d'en discuter. Non, il faut étudier, et voilà. Et là, le groupe est important. Alors, quelques précisions, si vous voulez, en ce qui concerne comment ça fonctionne en ce moment à l'UIP. Chrysler connaît une partie aussi, peut-être pas tout, mais voilà. Le prix est fixé par l'UIP. Mais attendez, je vous explique. Quand j'aurai enlevé mes lunettes. Voilà. Bon, je vais y arriver. Ça y est. Anna ne rigole pas. Bon, alors, que je vous explique. L'UIP fixe le prix. Comment l'UIP fixe le prix? Eh bien, elle prend le prix des interprètes de Genève, de l'association des interprètes de conférences internationales. Il y a une association à Genève qui regroupe tous les interprètes, et je sais que moi je me suis battu une fois en tant que président des 12 plus, justement, parce que j'avais besoin d'interprètes, l'UIP n'en avait pas, donc j'avais demandé les interprètes, et je me suis battu en essayant de prendre les interprètes qui n'étaient pas vraiment membres de cette association, et j'ai eu le président qui m'a téléphoné en disant que j'étais quelqu'un de pas démocratique du tout, contre les syndicats, contre le social, l'aide sociale. J'ai eu toutes les reproches de la terre. Bon, j'ai les épaules larges, donc j'ai expliqué, il coûtait moins cher. Oui, mais il n'était pas bon. Donc à Genève, il y a vraiment un syndicat très fort pour les interprètes. Mais l'UIP fixe un prix au-dessous du prix officiel. Il paie un peu moins cher que ceux que paient les autres organisations internationales de Genève. Donc, ils ont deux recruteurs qui cherchent les interprètes capables sur une liste de cette association. Il y a toute une liste et il y a beaucoup d'interprètes. Sur la base de cette liste, ils cherchent dans la liste et puis ils interviewent des gens qui sont capables de fonctionner avec l'UIP. Sur cette base-là, ils ont un contrat, et un contrat qui oblige les interprètes à respecter un certain nombre de choses. Les heures, par exemple, y compris les dépassements d'heures. Bon, il y a certaines conditions qui sont mises dedans. Bon. Mais ça, on peut le retrouver ailleurs avec d'autres sociétés. C'est possible. Ça, c'est le point que je voulais préciser. Et donc, le contrat précise quelques conditions auxquelles ces interprètes s'engagent pour une durée assez déterminée à fonctionner. Et on les convoque lorsqu'il y a une conférence. On leur dit, voilà, vous travaillerez tel jour, vous serez payé tant par l'UIP. Ce contrat et cet engagement n'est pas lié avec les villes à l'étranger. Et l'UIP peut donc, et il le fait quelquefois, avoir des interprètes dans les villes à l'étranger. Et donc ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Si on a des sociétés, si on trouvait des sociétés à l'étranger qui puissent faire les travaux à l'étranger, pourquoi pas, tout en gardant le système. Mais on peut discuter de tout ça, bien sûr. Mais je voulais vous informer de ces précisions qui sont peut-être intéressantes pour vous. Donc, pas lié à l'étranger, un prix fixé par l'UIP à Genève au-dessous du tarif. Mais je comprends que les interprètes s'assurent par un contrat du travail pour quelque temps et donc acceptent un prix moins cher. Voilà ce que je voulais dire. Et, dernière précision, ils engagent des interprètes trilingues. Voilà. Donc, c'est ce qui est la condition dans le contrat. Maintenant, après, à nous de voir, de décider, bien sûr, tout peut être discuté, tout peut être trouvé, comment on peut fonctionner mieux, avec pas beaucoup d'argent de plus, parce que trouver de l'argent de plus dans le cadre du budget ordinaire, ça va être difficile. Et on ne peut pas s'engager à prendre des décisions pour l'avenir sur un engagement financier pour les langues, sur des budgets qui ne seront pas un budget ordinaire. Je crois qu'il serait très dangereux de prendre un engagement parce qu'il y a des pays qui vont donner de l'argent en disant « Ah ben oui, moi je vais payer, je vous donne tant d'argent, voilà. » Et puis dans un an, dans deux ans, on n'a plus cet argent. Parce que les parlements ne donneront peut-être plus, ils n'ont plus les moyens de le donner. Il y a des promesses, les promesses n'engagent que les gens qui les reçoivent, donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais préciser. Quant au reste, Président, on a vu pratiquement tout ce qui n'allait pas. Donc essayons de trouver des solutions à ces problèmes, essayons d'avoir un consensus des 12+, et là je crois que c'est très important. Il faut qu'à Genève, on ait un consensus des 12+. Parce que nous savons par expérience que lorsqu'il y a des sujets sur lesquels le groupe des 12+ ne s'est pas mis d'accord, ça amène toujours à de mauvais résultats. Et là, je crois que Christian a raison. On est responsable pour l'avenir de l'organisation. Moi aussi, je renouvellerai pas mon mandat à la fin de mon mandat de sénateur dans deux ans et demi. Mais je tiens quand même, après avoir passé vingt-deux ans à m'occuper des problèmes de l'UIP, à ce que ça fonctionne bien pour l'avenir. Voilà pourquoi, Président, je tiens aussi à ce qu'on trouve une solution et un consensus de tous. J'étais un peu long, mais je crois que c'était peut-être important de vous préciser cette situation.
Thank you very much, Robert. I ask someone who wishes to take the floor. I may say that, as David said, before our meeting of the 12+ will be the meeting of the Executive Committee. And you, members of the Executive Committee, we'll discuss it before the 12+. When we will have our first meeting, we hope to receive something of your effort inside the Executive Committee. It's in your hands more than ours, 12+. And we have four members there and here that are members of the Executive Committee. Someone wish to take the is act. It's you. Please, Edge. Please.
Thank you so much. I would like to start to say that I've been listening a lot of all the experience that a lot of members in here have, but I also have to say that. When we were in Geneva in March, I listened carefully to what Ms. Gabriella said. What's her motivation for the different stuff that we have in the table now? And I think there is missing a part of that discussion, and I would like to take this into this room. Because she talked a lot about what would we like IPU to be in the future on. Should it be differently for how we work today? And I think one of her biggest motivation for asking us about that was that how can we make sure that IPU is relevant for the future, that our colleagues back home knows what we are working with, how we are working, and be more transparent. How to engage more young parliamentarians, and at least how to make sure that we are not leaving mostly all the women behind. I said in Geneva that I support her initiative, and Norway will do that in the future. But I see also a lot of challenges in what way of making those suggestions, also in the financial way of doing it. And I am agree with my Swedish colleague Christoph that I think we could have said yes to many things if we have known how it will be financially. But I strongly will say loud that I will support her initiative. I think she is actually doing something very good for the future on. And I don't think we can make a conclusion here, but I think that all the members of the XCOM have heard what has been told around the table, and I think we're also going to have some good discussions in Geneva and in a few days, a few weeks. And what my Canadian colleagues said in Geneva, I'm not afraid of if UN will make a new organization with parliamentarians. There is not too many organizations working for peace and democracy in the world. And I think they're going to do it. They're probably going to do it, because that's a part of the reform. But then it's even more important that we make sure that we are relevant for the future. What should we do? What should the General Secretary do? What should the President do? What should XCOM do? And so on. So my suggestion is, of course, that Ms. Gabriella meet 12 plus in Geneva, make sure that she is prepared because of this discussion, because I think it's the same discussion we will have, and that we meet her with an open mind about what is her motivation for doing this. Thank you.
Kristen, please.
In one point, I disagree a little with my Norwegian colleague. And that is when we are talking about the parliamentary organization in UN. I'm not afraid of that, but I want to know what kind of parliamentary organization. Because if it is an organization that that will have responsibilities and taking decisions, that could be, and now I go to myself, that could be a problem with our Swedish constitution. If IPU then built up an organization in that way, we can't be members of IPU anymore, because it's the government in our constitution that have that responsibility, and I am not sure if our parliament will vote for a change in the constitution so we can still be a member of IPU. But this is a new old discussion that we have had a couple of years ago, and I think we should have that. It should be a discussion even in the future, but we need to be very careful, because I know we are not the only parliament in the world that are in the same position, and we have decided that we will not accept an organization in IPU that make us a second grade of member. If we are supposed to be here, we will have the full strength in our membership. So think of that when you're talking about our relations with the UN. It could be a good thing, and it could be very bad.
Thank you. Of course, we will wait the results of the executive committee, but I may say also that we know that, of course, we have a conflict. Everyone knows there is a conflict between Gabriela Cuevas, our president, and the secretary general. But we know what are the motivation of the president. She thinks that if we are a parliamentarian organization, She needs, it needs to be ruled by a parliamentarian. And who represents the institution should be a parliamentarian, for instance. And if, for instance, if the president is not available to be somewhere, should be the vice president that represents the institution, because he's a parliamentarian from Russia or from France or from somewhere, and not the secretary general, because the secretary general is not a parliamentarian. Of course, we need more. If we need this kind of transformation, we need to have more meetings of the executive committee. Because, for instance, I saw from my eyes, with my eyes, that when the service of IPU gave to the president the terms that for the next assembly, without asking anyone, they decide that the next conference in the next assembly the main thing to the General Assembly should be science. And she said, it was a conversation, I have been present, and she said, who decides? Executive Committee decide that should be science? No, I propose it, because I think it's what is important to discuss. And she said, I will not accept it. Okay. I will propose migrations, because I think it's much more important right now to discuss migrations than science. And so, this is the kind of thing, for instance, that should be, for instance, not a decision of the president, but a decision of the executive committee. So the executive committee needs to have more meetings, just not twice per year, but in the middle time between assemblies to take this kind of decisions. If the executive committee meets between assemblies and take these decisions, the decisions will be taken by parliamentarians. The president will not vote at the executive committee. So it not be a personal decision, but a decision of the executive committee. But it will not be also a decision of the secretary general. And that's why I think we need to change a little bit how we work. Because if we are parliamentarians, the parliamentarians should decide what is our rule, what is our way, what we will discuss, how which persons we will invite to the meetings, which kind of meetings we will do it, and so on. Of course, then the implementations should be the service, because no one... we have members of the executive committee, but you need to work in your own parliaments, in your districts. You are not available to be in Geneva, and the president are not available to be in Geneva as well. But the decisions should be taken by the executive committee, and that's why I think this is what is in their mind. But I think that, I agree, many times we need not to decide very, very quickly, because we need to convince our colleagues that it's not a war, but it's a way to improve the organization. And if we need time to prove it, give the time to prove it, because the organization will still alive after Gabriela Cuevas left the job. After we left the job, and we think we wish the best to the IPU. Robert, you ask the floor, please.
Ça m'embête de parler toujours de mon passé, mais j'avais proposé 4 réunions du comité exécutif par an, parce que un qui peut avoir lieu avant l'Assemblée, mais entre les deux assemblées, il se passe une période de temps où le monde est oublié par les parlementaires, parce que on prend des décisions à Genève dont on est informé ou pas, après coup, de toute façon, et pas avant. On nous informe, après qu'on ait réclamé l'information, on nous informe qu'on a pris cette décision. Et moi, je crois qu'il nous faut au minimum 4 réunions du comité exécutif par an, parce qu'il y en a 2 qui sont de toute façon avant les assemblées, mais juste avant, 2 jours avant. Et là, on ne peut rien changer, parce qu'on ne peut pas changer ce qui a été décidé. Donc il faut, entre les 2 assemblées, avoir 2... deux réunions du comité exécutif. On avait fait une étude à l'époque sur le budget pour savoir ce que ça représentait. C'est pas très cher un comité exécutif parce qu'il n'y a pas de location de salle, ça se passe au siège de l'UIP, le personnel est sur place, on le déplace pas. Il y a seulement quelques interprètes à payer et on traduit pas dans toutes les langues de toute façon. Donc c'est assez facile à faire donc c'est faisable. La dépense revient au Parlement qui envoie les gens là-bas. Voilà. Donc c'est faisable sur le plan financier, on peut le faire. Et je crois que ce serait très utile justement pour suivre ce qui se passe et prendre les décisions et influencer les décisions dans la bonne direction.
Maybe this kind of things is not, we don't need to change the statutes. It's just to improve and the way how it works. Maybe next meeting of the executive committee, someone of you may propose it and decide. May we go forward? Thank you. Now vacancies. So we don't receive information, official information from IPU. So we don't know, for instance, if some of our colleagues are not members, still members of parliament, and we have more vacancies, for instance, because sometimes it happens. What we have now, that is what mandates will end next March. And then we have for the Bureau of the First Committee two places for the 12 plus, to the Second Committee two places, to the Third Committee two places also, and to the Fourth Committee one place. To the Middle East questions one place, to the Bureau of UNO Parliamentarians one place, until now we received from Spain, they are available to be member of the first committee, to be one of these places that are available, and to run for it. So we have 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places until now to the 12 plus. If someone are not member, still member of the parliament, will be more places that we'll discuss. Madame Locatelli, you ask the floor.
Well, just to say that I did not put my candidacy for this term of parliament, so in 6 months, I have a prorogatio for 6 months, and then I will leave.
Okay. So it will not be in March, but in...
It will be around September, October.
Next October, also to the Bureau of Union Parliamentarians. Yeah. Will be one more place. So this is what we have until now. Okay. Point. Someone wishes to take the floor? I may repeat. To the Bureau of Women Parliamentarian, one.
Women.
And Middle East questions, one. Young parliamentarian, no places are available. For the 12 plus. Point 10. To the Assembly, emergency items. Until now, we didn't receive anything. But I think that Syria, for instance, is an item that some of us should present. What happened there is awful. Completely awful. But I don't know. Do you want? Margaret? Take the floor. It seems to me.
Oui. Bon, ça c'est juste mon avis personnel. Moi je pense aussi. Donc je peux pas... obliger ma délégation, mais ce qui se passe en Syrie, de plus en plus, il faudrait mettre ça au point urgent.
Robert, s'il vous plaît.
Je suis membre du comité Syrie. Eh oui. Donc, pour l'instant, on en est au point mort. C'est-à-dire que l'objectif était de voir les... Je vous rappelle que l'objectif, c'était de faire des propositions à notre niveau. Le niveau des parlementaires n'est pas très élevé par rapport à ce qui se passe en Syrie, puisque là, c'est le politique qui parle, et au-delà, c'est le militaire qui parle, et plus que les parlementaires. Donc, notre objectif était réduit, et au moment où on a décidé de créer ce comité, c'était un moment où il y avait une accalmie qui pouvait peut-être permettre de penser qu'on pourrait convaincre les Syriens d'aller dans une direction plus démocratique et plus acceptable. L'objectif, donc, était de dire aux Syriens, après entretien avec différentes personnalités, y compris Stéphane de Moussoura, qui, vous le savez, est le chargé pour les Nations Unies d'essayer de trouver une solution pour la Syrie, pour l'ONU, et nous avait conseillé de faire en sorte de rencontrer les gens de la région, l'opposition et les Syriens. Pour arriver à terme, si on y arrive, si on y arrivait, mais c'est futurologie, essayer d'expliquer aux Syriens que il leur faut modifier la Constitution et avoir des élections, avec une loi électorale. Deux ambitions assez élevées, pour la bonne raison, c'est que Assad, le président Assad, lui, ne veut ni bouger la Constitution, ni avoir des élections maintenant. Il est conforté parce qu'il pense qu'il a gagné la guerre maintenant. Il a gagné la guerre parce que Daesh n'est plus important, n'est plus fort. C'est pas lui qui l'a gagné, enfin ce sont les bombardements russes surtout, les Kurdes un peu, les Alliés un petit peu aussi, les Français, les gens qui participent à cette coalition contre Daesh. Et donc Assad dit, mais maintenant j'ai gagné la guerre, donc toutes vos tentatives pour essayer de me faire accepter quelque chose de démocratique sur le plan local, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui commande. On ne peut pas arriver à rencontrer les gens responsables en Syrie. Constanza Kozachev et la présidente avaient redemandé à ce qu'on puisse avoir un voyage là-bas. Eux deux pouvaient peut-être y aller. Ils espéraient tout de suite après notre rencontre de Genève du comité exécutif. Ils n'ont pas de réponse et ils ne sont pas invités à venir. Dans ces conditions, le comité sur la Syrie est bloqué. Et il est bloqué tout simplement aussi parce que la situation politique et militaire, surtout dans le pays, se développe de telle façon que pour l'instant, Assad pense toujours qu'il a gagné la guerre, mais c'est à court terme, parce que l'opposition continue à acheter des armes et à se réarmer, et puis va continuer une guérilla dans certaines villes, avec l'extrême réponse des soldats d'Assad, qui eux utilisent toutes les armes, y compris les armes interdites, pour bien sûr battre cette opposition. Le problème, c'est que la Syrie est dans cet état, que pour l'instant, nous, à notre niveau, les politiques ne peuvent rien faire, l'armée ne peut rien faire, puisque Assad est toujours dans sa position. Mais la Syrie est un pays qui est complètement ruiné, catastrophé. Il n'y a plus rien en Syrie qui tient debout. Les infrastructures, les immeubles et tout ça. Pour reconstruire, d'après Stéphane de Mistura, il faut 500 milliards de dollars. Et personne ne veut donner l'argent. J'ai vu Lavrov, le ministre russe, qui m'a dit « Ah ben nous, les Russes, on n'a pas d'argent à donner. De toute façon, on ne peut rien donner, on n'en a pas. » Bon. Les Américains ne donneront rien tant qu'il n'y a pas un semblant de démocratie qui est établi dans le pays, donc ça peut durer très longtemps. Restent les Européens qui, eux, disent « Oh là là, on ne peut rien faire, on ne va pas donner d'argent tant qu'on n'est pas sûr que Assad va partir un jour, qu'il y aura un gouvernement. » Bon, voilà où nous en sommes. Les parlementaires syriens sont toujours membres de l'UIP. En Russie, nous les avons rencontrés brutalement, par une discussion au milieu de la salle d'ailleurs, qui a provoqué un peu de bruit, mais on leur a dit, écoutez, si vous voulez pas nous inviter, on n'y va pas, mais voilà notre condition. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne veut pas intervenir dans le domaine militaire et politique, on veut seulement vous dire qu'on est à disposition, l'UIP, pour vous aider pour les élections, etc., etc. Bon. Pour l'instant, point mort total, dans le comité Syrie, il est en vacances obligatoires. On va en reparler, on va se réunir, on va voir ce qu'on peut... On va réétudier toutes les choses. Peut-être que lors de l'Assemblée générale, on pourra rencontrer de nouveau les parlementaires syriens et les autres parlementaires. Les Jordaniens, ils sont favorables. Bon, quelques pays hésitent encore, comme l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, qui est favorable, parce qu'il est membre du comité aussi. Voilà. Mais il faut rester très prudent sur nos capacités parlementaires à avancer dans ce domaine-là. Je crois que c'est une belle ambition, c'est un beau sujet, mais Président, on ne va pas aller très loin. C'est mon avis personnel, là. Ce n'est pas l'avis de tout le comité, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne.
Of course, your view is very important to all of us, but I think that you, what Margaret and myself said is about the emergency item, because what happened in Ghouta, for instance, we have a decision, a resolution approved by at the United Nations Security Council, asking for a break for humanitarian reasons, for instance, and no one take care of it. And so, if you have an emergency item, is there something about, I don't know, if in 3 weeks it keeps the importance as we have now. Emergency item should be something important on that moment, not something that we'll discuss always. So it's better to wait, of course, and to wait for the date before the meeting to decide. But if you keep what happened, if keep in our reality what happened in Ghouta, I don't know if we close our eyes and we will discuss other matters and forget the people that are dying right now there. It's something different, not the Syria problem at all, as a whole, but, for instance, the implementation of a resolution of the, approved by the Security Council of the United Nations. It's something different.
Oui, l'idée, bien sûr, un point d'urgence sur la Syrie, évidemment, ça paraît d'accord, tout le monde est d'accord pour voir un point d'urgence. Mais encore par expérience, des gens ici qui ont été dans des comités de rédaction des points d'urgence de l'UIP, je souhaite bien du plaisir à trouver une résolution, un texte qui soit, je dirais même pas adopté, mais discutable ou discuté. Parce que déjà, dès que le texte va paraître, il y aura déjà des tirs de tous les côtés. Je vois mal, parce que tout le monde va vouloir être dans le comité de rédaction. Tous les groupes, et tous les groupes ont droit à avoir des gens. Donc vous allez voir les Iraniens, bien sûr, mais oui, vous allez voir peut-être des Saoudiens de l'autre côté qui vont, ou des Libanais, vous allez avoir des gens comme ça, et on va, à mon avis, peut-être je dis une bêtise, mais on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir une résolution qui veuille dire quelque chose. Alors si c'est une résolution pour dire que l'UIP demande le respect de et l'application de la résolution du Conseil de sécurité pour que l'humanitaire puisse voilà, bon, voilà, ça va se limiter à ça, ça va être 10 lignes plus tous les considérants et on va pas aller beaucoup plus loin. Mais pourquoi pas, si moi je m'apprête au comité de rédaction si c'est nécessaire. On a l'habitude de se battre avec les gens. Mais ça va être quelque chose de très difficile. Et le résultat ne sera pas au niveau, voilà. Alors on peut, mais alors par contre, ce que peut faire l'UIP, c'est de faire une déclaration, de la présidence, qui nous présente au comité exécutif, qui donne son avis, et elle fait une déclaration au nom de l'UIP sur la situation en Syrie et demande au nom de l'UIP le respect de l'application de trucs, etc. Ça, c'est quelque chose de faisable et ça met l'UIP, ça permet à l'UIP de prendre position mieux que dans une résolution qui va être le résultat de bataille et qui n'aura pas d'impact. Je pense qu'une déclaration de la présidence au nom de l'UIP, en parlant au nom de l'UIP, un communiqué de l'UIP prenant position en disant voilà, ça, à mon avis, c'est quelque chose de faisable. Enfin, c'est une proposition, mais si vous préférez un point d'urgence, déjà, il va falloir faire voter le point d'urgence. Et ça, ça va être, parce qu'il y a beaucoup de pays qui seront opposés à ça. Et on va avoir des pays, vous allez voir, quand on va voter pour le point d'urgence, il y a des pays qui vont dire, ah non, parce que c'est une implication dans le... On va voir. On est déjà passé par là, quelquefois. On a eu des résolutions sur la Syrie, mais qui ont demandé une semaine de travail, et puis le résultat n'était pas énorme.
Okay, we will wait to see what kind of emergency items will be presented. Until now, we will not have anything. And of course, the executive committee will have the meeting before, and we will wait for it. Committee meetings. We have just met, we just have documents about the two committees, the same committee on peace and international security, and the other one about sustainable development, finance and trade. And we have two co-reporters and draft resolutions from the 12 plus. At the first committee is Mr. Caroni from Switzerland. I don't know if Margaret knows something about it, if you talk with your colleague, or if someone... if we don't have any information, we will go forward.
Oui, Monsieur le Président, je me suis pas, j'ai pas spécialement pris des préparations pour la résolution qui sera présentée par mon collègue Caroni de Suisse et un autre collègue parlementaire devant la première commission. À ce que je sais, ce projet a été longuement en préparation. Discussion. Je pense qu'il y a peut-être même des membres de la première commission qui sont beaucoup plus au courant, puisque moi je participe aux travaux de la troisième commission depuis des années. Je pense qu'il y a eu des auditions d'experts par les deux parlementaires qui ont préparé ce rapport. Je pense que jusqu'à présent, les réactions prises dans le contexte de la première commission étaient positives. Reste à attendre les amendements qui seront présentés dans le délai.
Merci. La autre commission, c'est... Christa, please.
There will be a new decision for the new subject for the first committee also. And we have a proposal that we are discussing with the secretariat. And our proposal is combating sexual violence in UN peacekeeping missions and beyond. So we will see if this will be a new item for the 2019.
I remember it was presented a year ago, and the bureau of the committee said it's important, but they will discuss this theme, but it will be not in at the agenda. So I think you may support your position to be to the next agenda of the first committee. So consensus about it. Standing committee sustainable development. We have a co-reporter from Belgium. If you have something to tell about it, about some resistance or about a consensus about the draft resolution.
I've heard from my colleague that everything is going well with his Vietnamese colleague and that we can end that discussion.
So it's easy. I always remember the debate of the first committee in Dhaka, because it was not easy that time. But now it's more easy to draft resolutions of in our committees. At the other committees, if you wish to take the floor, Chris.
Yes, on the third committee, we have had a discussion in our delegation about what happened in St. Petersburg. We have sent a letter to the Secretariat and the President, and we have also sent it to our members in the XCOM, because those of us that were on this committee meeting were upset about how people in the committee behaved when it comes to the discussion about LGBTQ people. There were shouts and screaming and so on. I wasn't there, but they have told me this. And if we can't have a democratic discussion in IPU, so people are supposed to be shouted at because they have an opinion, it doesn't feel good. We haven't had any answer yet from the Secretariat about this, but I think it's very serious if you are not allowed to have an opinion. Thank you.
Before, I think we have worse than that. Because we have, I am not a member of the committee, but I still at assembly when the president of the committee announced the decisions of the committee, and we have the same problem at the plenary with people screaming. It was awful, and the plenary take a decision that I don't know if it's supported by in our statutes, but because the plenary at assembly asked to the committee to think again if the committee will maintain the decision to have a debate about this kind of items, because the decision of the committee is a decision of committee. I think that the plenary has not the power to discuss the decision of the committee. May approve the results, the draft resolutions and so on, to adopt the resolution, but not discuss the decision that the committee take before. But after the discussion, and a lot of members of our parliament are not still at assembly because the delay of the works in our last day. I remember that our colleague Lacão from the Portuguese Parliament, he talked about it against the decision that is be taken by the plenary, but the majority there decide to ask the committee to think of, to drop off this issue from the agenda in Geneva and to think again about it. And I think that our statutes did not allow us. Maybe the President didn't respect the recommendation of the plenary. But Belgium, please.
I'm not going to repeat the whole story. It was terrible what has happened there. We were flabbergasted and say what's going on now. Now we have asked at the committee secretariat what kind of debate we can have in Geneva. They have sent us a long letter with all kind of argumentations or notifications. I gathered from this that it is not certain that a clear distinction will be made between the preliminary question I quote, should we accept the Belgian proposal and consequently have a debate on the LGBTI issue? The end of quote. On the one hand, and the substantive questions of this discrimination against LGBTI people itself on the other hand. My guess is that since the issue is already on the agenda, albeit in a non-conventional form, the committee president will not want to clearly separate the two discussion questions, and people in their interventions will address them together, which means that one of the scenarios they propose, and I read it, it may be that simply by expressing their views at the session in March on the proposal, members feel that this session in March has been sufficient for placing the issue on the IPU's record, and it's no longer relevant to have a separate committee agenda item at the next assembly. For this to happen, the proponent of the proposal would have to withdraw it formally. End of quote. So we should make the most of the opportunity we get in Geneva. And since the Belgian delegation will be asked to start the debate by presenting its proposal again, we will take this into account and give a more elaborate presentation than we did in St. Petersburg, in which we will talk also about a substantive issue and not just about why we should discuss this in the IPU. And I want to take this opportunity, Chair, to call for as many 12-plus delegations as possible to be present at the debate and to take the floor to support a proposal and speak out about the many aspects of violence and discrimination against LGBTI and about what we as parliamentarians can do about it.
Thank you. Of course, we'll discuss this on our first meeting in Geneva. Before the meetings of assemblies and committees, to ask this to our colleagues to be present and to decide. But I think that we have also something that you need to discuss. So, if a group do not agree with a decision of one committee, this group can appeal to the assembly and to have a second term, a second discussion. It will be now forever this kind of procedure, because it's something new. I do not remember something like this. But if is for the future, we will know it's a new rule, and we didn't change the statutes, but we have a new rule. If we don't agree, we go to the plenary assembly to ask to have a second votation, and we will try to change the result, because I don't like the results of the first time. But
I'm not so old in this organization, but it's not a rule. It was the Russian president, see, who said we do it like that. The assembly has said it's like that, and it was over the story. It's not correct.
Yes, because the discussion is so bad and so ugly that she tried to end it, of course. She tried to end the discussion because some countries from Africa and from Arab countries did something not nice. David, please. Please.
Thank you, Mr. Chair. Colleagues, I wanted to raise one important issue that you should be aware of if you're not aware of. And this is pursuant to the announcement that a high-level advisory group on counterterrorism was being created for under the auspices of the IPU and the United Nations Office on Drugs and Crime. So there is a list of membership now. I am a member of this advisory group. Margaret is a member of the advisory group. I think also vice chair. While in Geneva, something unusual occurred. In a very quick moment, the executive committee seems to have approved the addition of a number of country representatives to this high-level advisory group on countering terrorism and violent extremism. And two other countries were allowed to join. One was Iran, and the other was Algeria. Now, since that moment, there has been quite a reaction amongst 12-plus members. I've spoken to Margaret, I've spoken to our Australian counterpart, I've heard from the New Zealand, I've heard from the American ambassador in Ottawa, I've heard from the Israeli ambassador in Canada, the Israeli speaker of the Knesset has written a letter to our president, Gabriela Cuevas, asking how this could possibly be. This is a very controversial matter now, and I wanted to table it and get your reaction, perhaps your advice on how we might proceed, if proceed at all. My own government has withdrawn any further consideration of support for this high-level group as a result of Iran sitting on this group. At one point, our government was considering funding the initiative. Now they have completely withdrawn. Our Prime Minister made a very powerful statement in the House of Commons just a month ago on the Iranian situation. I had our legal team go back and do a quick review of where Iran now sits globally on this question of, as a state sponsor of terrorism, whether it's the United States, Canada, the European Union, and many of our own countries here, the general conclusion is that Iran is the single biggest state sponsor of terrorism in the world today. And so the challenge we now have as a 12-plus group is what we can or cannot do about this. The Australian Speaker of the Senate, Scott Ryan, with whom I spoke just Friday, last week, on the way over here, said he's looking for some sort of mechanism through which the Secretary General or the President can revisit this decision and have Iran removed from this working group. It's really serious. It's a story. It's a front page story waiting to happen. I haven't been contacted by anyone else. The Jerusalem Post has held back the story, but I fully expect the New York Times will run the story. And the question is whether or not we want to say something as a 12-plus executive committee in advance of the executive committee meeting at its next meeting. There is more than ample evidence everywhere about Iran's role, whether it's through its Islamic Revolutionary Guard Corps, the Quds Force, in funding the Taliban, Lebanon's Hezbollah, Hamas, the Palestinian Islamic Jihad and the Popular Front for the Liberation of Palestine, its general command. It is funding Hezbollah directly. It is considered to be the virtual arm of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps. It's providing arms and money to Hamas. It has been involved in a series of bombings, including the 2000 bombing of the USS Cole, directly involved in the World Trade Center and Pentagon attacks of 11 September 2001, and in a foiled plot to bomb the New York subway system in 2009. All of this is available for your consideration on the United States State Department's designation as Iran being a state sponsor of terrorism since 1984. There are only three other countries on that list: North Korea, Sudan, and Syria. So the question, Mr. Chair, for consideration today is what we can or cannot do about this. I'm told there's a mechanism by which the Secretary General and the President can reopen this question at the Executive Committee of the IPU writ large in Geneva. But I fear that this is highly problematic. The United Arab Emirates is funding this initiative, Mr. Chair, at this point. I think they're in for perhaps $1 million, or I don't know the exact number in terms of how much they're funding. I know at one point the UAE government wanted to fund the entire initiative, and then the Secretary General was cautioned by a number of members this would be a very big error to have everything funded by just one country, and that they should look to get a series of countries to support. So I wanted to raise it with you, Chair, and I'm The Speaker of the Knesset has written a letter to the President of the IPU. The Israeli ambassadors around the world are moving to lobby different individuals. You, for example, Mr. Chair, myself. And so I wanted to raise it and table it for consideration and debate.
It's a very sensitive question. Because we know that the decision to invite countries to be member of this group is a decision of the executive committee. It was a decision of the executive committee. So if I'm wrong, please correct me, because it's important to have all the information. Margaret, please.
Oui, bon, c'est vrai, comme David vient de dire, que le lundi 5 février, après notre réunion du comité exécutif, ce groupe consultatif sur la lutte contre le terrorisme a siégé. C'est vrai que ce lundi 5 février, le groupe même s'est constitué et a élu la doctoresse Al-Kubaisi d'Abu Dhabi, présidente de ce groupe, et ma modeste personne comme vice-présidente. En ce qui concerne la composition qui touche aux membres iraniens, dans mon souvenir, et c'était ma première réunion au comité exécutif, les 3 et 4 février à Genève, nous étions les 4 membres ici présents, et monsieur le président Duarte Pacheco, le membre iranien, monsieur Halali, qui siège depuis quelque temps au comité exécutif, a postulé en réunion, c'est mon souvenir, en réunion du comité exécutif et en présence, si je ne m'abuse, de la présidente de l'UIP, Gabriela Cuevas, Baron, que l'Iran est donc sa propre personne, monsieur Halali, membre du COMEX, devrait en tous les cas être membre de ce groupe de travail contre le terrorisme. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de discussion à cet égard. On est passé au point suivant. Le lundi matin, on se retrouve à 10h pour la première séance donc de 2 jours de ce groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme. On se constitue, etc. On travaille les règles, etc. On procède aux travaux. Et Monsieur Halali est là. Monsieur Halali de l'Iran. Il est là, il est à la même place qu'il a occupé les samedis, dimanches pour son siège au comité exécutif. Voilà. Voilà, c'est ça les faits comme je les ai en mémoire. Maintenant, comme David, je pense que la question reste brûlante. En Suisse, je n'ai pas été contactée, bien que, j'ai pas lu la lettre de Knesset, mais bon, en Suisse, jusqu'à présent, ça n'a pas créé un incident, mais David m'a téléphoné du Canada. Comment régler la chose? On peut pas la régler au sein d'une séance ordinaire du COMEX, puisque Monsieur Halali siège. Hein? Donc, faut trouver un moyen. Notre président du groupe 12+, peut-être un ou deux, ça suffit, le président de 12+, avec la présidente Cuevas Baron. les présidences des autres groupes géopolitiques, peut-être, je ne sais pas, il y a des personnes beaucoup plus expérimentées que moi, peut-être pour résoudre ce genre de conflits de personnes et de parlements membres. Mais je conçois que ça, ouais, ça risque de poser des problèmes que nous ne voulons pas.
Before I give John, we have John and Robert. But before that, as I understood, you believe that we didn't have a formal decision at the executive committee. If we don't have a formal decision, Iran is not member of this group before the next executive committee meeting. It seems so. If we don't have a formal decision, if we talk about it, but if we don't, if we have, it didn't decide, if we didn't approve, I don't know. How is it possible? John, please.
Thank you. I understand that my colleague Ian Little Granger, who previously was representing the UK at these meetings, expressed some considerable caution about the constitution of a group on counterterrorism by the IPU originally, and I think it was with this kind of development in mind that he actually warned that this was a dangerous path. We are now where we are, but I have to say I would very strongly share all the concerns expressed by David on behalf of Canada. We would take exactly the same view of Iran, I think, as he has already set out. Now, the UK is no longer a member of the Executive Committee, but I would hope that the Executive Committee will find a way to extract us from this position, which I think is going to do considerable damage if it continues.
Robert, please.
Écoutez, moi, Président, je vais être très critique. Ce comité ou ce groupe de travail, je ne sais pas comment on va l'appeler, a été créé à Dakar, dans des conditions de réunion un peu compliquées. Et on ne s'est rendu compte de rien. Ça nous était annoncé par le secrétaire général en disant « Oui, oui, on a un... Vous savez qu'on a créé un comité, une réunion de personnalités de haut niveau. Pourquoi on disait ça ?» C'est pas le sujet pour le terrorisme, je suis désolé. C'est parce qu'il fallait trouver, entre guillemets, un job au secrétaire général, au président sortant, monsieur Chaudhuri. Il fallait lui trouver des activités. On lui a trouvé deux activités pour l'UIP. Mais oui, Marette, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, oui, oui. Et on lui a trouvé et ça a été annoncé devant le comité exécutif en disant on a quelque chose qui pourrait être bien, c'est un comité, etc. On a fait appel, paraît-il, à des membres. Nous, moi, je me souviens pas. Pourtant, franchement, au point de vue terrorisme, la Grande-Bretagne et la France sont deux pays qui sont concernés presque tous les jours. Nous, on se bat au Sahel, on a 4000 militaires au Sahel pour lutter contre le terrorisme. On a des experts, je suppose, qui connaissent beaucoup mieux que nous, parlementaires, ce qui se passe dans ce domaine-là. Je trouve que la constitution de ce groupe de travail est quelque chose qui ne devrait pas entrer dans le cadre de nos activités de l'UIP. Premier point. Deuxième point, s'il devait y avoir un groupe de réflexion ou de travail pour lutter contre le terrorisme, mais mes chers collègues, il faut faire appel à des experts, pas aux parlementaires. Il y a peut-être un ou deux parlementaires qui connaissent bien la situation. Mais franchement, ce sont les experts de faire ça. Qu'allons-nous apporter de plus dans la lutte contre le terrorisme, si ce n'est des affrontements politiques au sein de l'UIP entre des pays soupçonnés et des pays qui les soupçonnent mais qui les acceptent dans une discussion entre nous? Vous savez, moi, je veux bien, mais je suis totalement opposé à ce groupe de travail. Mais franchement, Marie, je te dis ma pensée, parce qu'on ne peut rien faire si ce n'est avoir des problèmes. Et maintenant, quant à l'Iran, je voudrais vous lire le communiqué officiel de l'UIP sur la dernière réunion, le compte-rendu de la dernière réunion où les choses se sont passées. Le comité exécutif, as the executive committee decided to expand the membership of the IHLAG to include Algeria, Argentina, Colombia and Iran, and to nominate any other member from the African group. It also authorized the president of the working group on Syria and the IPU president to conduct a mission to Syria. C'est une décision. The executive committee concluded at 6 p.m. on the 4th of February. C'est le compte rendu officiel du truc. Donc, officiellement, d'après ce compte rendu, l'Iran est membre. Ben oui, mais malheureusement, donc il faut contester le compte rendu si on veut pas. Voilà. Mais contester le compte rendu, ça veut dire qu'il faut contester aussi l'Algérie, l'Argentine, la Colombie. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose. L'UIP, mes chers collègues, est en train de glisser vers un engagement dangereux de choses auxquelles on n'a rien à dire, rien à faire, et où on ne peut rien faire. C'est mon avis personnel. Mais non.
So two things. First of all, these minutes, I think they are not approved yet. And as I understood, there are different interpretations about what happened in the during the meeting. And so the minutes should be approved next executive committee. Second, I think it's a good example how the decisions sometimes happen inside our organization. And because the beginning of the process, it was took from whom?
Without explanation, on a été devant le fait accompli. On a été devant le fait accompli, je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui étaient là.
Yes.
C'est qu'on nous a dit, ah ben oui, il y a un comité qui va se trouver là. Et puis, c'est le président était là, le président sortant, c'est le président qui va diriger ça et qui va s'engager, etc. Il y a deux, je ne me rappelle plus, la deuxième activité qu'on a trouvée et qui a été annoncée, et tout le monde a applaudi le président, oui, bravo, il va faire quelque chose pour l'UIP, il va s'engager à continuer à travailler pour l'UIP en dehors de son ancien mandat. Bon, c'est gentil, c'était un cadeau de départ, mais qui maintenant est pour nous un problème d'arrivée.
Sir, please.
If you in the XCOM don't think it was this kind of decision, then of course you have to act as the as our chair said and deny this decision. So that's the only thing to do. If it is a decision, then it is.
Margaret?
Ouais, je tenais juste à intervenir peut-être sur l'utilité ou non qu'il y ait des pays et des experts, des procureurs généraux dans les armées, etc., beaucoup plus experts que la moyenne, disons, des membres choisis selon des méthodes que j'ignore. Ça c'est incontestable. Je pense que pour répondre à Robert, il faut pas surestimer la teneur du mandat de ce groupe de travail tel que je le connais moi, et qui doit se concentrer sur les législations à mettre en place dans les parlements de tous pays membres de l'UIP afin d'harmoniser la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au niveau législatif. Donc, il s'agit principalement de ça. Il ne s'agit pas de concerter les forces policières, d'intelligence, etc., armées ou non armées, au niveau mondial, voire au niveau continental, où ces problèmes surgissent. C'est ça. Maintenant, au niveau du nombre maximum, une information que je dois vous apporter, c'est que lorsque, pendant cette réunion du lundi 5 et mardi 6 février, Il était donné connaissance aux 10 membres environ qui étaient présents. Monsieur Chaudhuri, ancien président, n'était pas présent. David McQuinty a dû nous quitter en cours de matinée. Mais il y avait environ 10 membres présents. Le nombre maximum pouvant siéger à ce groupe de travail a fait l'objet d'une discussion. Et la présidente élue, par cette procédure de composition du groupe, la doctoresse Al-Kubaisi d'Abu Dhabi, était, que je ne connaissais pas avant d'ailleurs, certains, oui, vous dites qu'elle est très bien, certains d'entre vous la connaissent, elle est restée absolument ferme sur le point de limiter le nombre des personnes dans ce groupe à 15. Plafond de 15 et pas une personne de plus. Donc, il va y avoir là peut-être aussi encore une certaine différence à régler entre cette décision que vient de nous lire Robert dans le compte-rendu que je n'ai pas encore vu. Je suis désolée. Et cette décision, ou enfin cette attente ferme de la présidente nouvellement nommée à ce groupe de travail, plafond à 15, qui était, à mon avis, acquiescé par les membres présents de ce groupe de travail. C'est les éléments que je tenais, dont je tenais à vous informer.
David?
Well, just in closing, Mr. Chair, yes. From my perspective, if we began this meeting, I think in part, agonizing over whether Azerbaijan should be allowed to join the 12-plus group. Agonizing. Should we not? I will make a prediction. If the committee goes forward as it's presently constituted, you will probably lose a half a dozen members of this working group, and this will become a very big story for the IPU. Iran's activities are outrageous on the terrorism front. Many of our countries are involved in prosecuting wars that involve Iranian weapons, money, leaders, movements, propaganda, social media, dark web activities. They are a very powerful actor, and the IPU will have to do something about this. If it drifts into complacency, we can do nothing about this, and Krister may very well be right. Maybe this is only something for one of us or all of us here to take to the executive committee, but I wanted to raise it and table it, because it's one thing to have Iran as a member of, say, the Working Group on Sustainable Development. It's another thing to have Iran as a member of a group on anti-terrorism. This is very dangerous, and I think it's very dangerous for the group, for IPU going forward. So thank you for your patience and for your advice.
Dear colleagues, if you agree, we made two things about it. Myself, I made talk with Gabriela Cuevas and express what we think about the issue. Is the information important to the president to deal with this matter? I will do my best. And second, the first item of agenda of the executive committee is always to approve the minutes of our last meeting. And I think that you should raise the question, and maybe we have support to change, not to change because you didn't have a decision, but to change the minutes and to have the correct decision about the participation of Iran inside this group. And, of course, this, the president is allowed and know what we think, and many countries are thinking about it. She will do also what she needs to do to have the right decision inside the executive committee. Okay? Robert, please.
Précision pour vous informer, c'est que ça, c'est le compte rendu officiel, hein, qui dit que le secrétaire général a proposé que la réunion de ce comité de à haut niveau, etc., se réunisse, donc ce qui était le cas, le jour suivant, donc le lundi, et reporte la composition du groupe à la prochaine session en mars. Le débat a continué, puisque l'Algérien a pris la parole, Kozachev, etc., Ferrer Gomez, et le président, à la fin, croit penser qu'il y a un consensus, et quand même pose la question s'il faut un vote ou pas. Il n'y a pas eu de décision. Elle a donc, sur la base du consensus, considéré que la proposition d'inclure l'Algérie et l'Iran dans le groupe était acceptée. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça n'a pas été très clair, la façon, puisque on dit on va le reporter en mars, après on dit mais non, est-ce qu'il y a un vote, il y a besoin d'un vote ou pas? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un consensus ou pas? Je crois que là, c'est ça reflète ce qui s'est passé, je pense. Hein? Donc la situation est vraiment un peu compliquée. Et
it shows that needs a clarification.
Voilà, ce qui demande une clarification. Et de toute façon, le compte rendu doit être adopté. Et à ce moment-là, on peut demander une correction du compte rendu.
Of course. Qui
une discussion et un débat,
of
et peut-être un vote, et à ce moment-là, on verra comment est le résultat du vote.
Enfin,
vous voyez que c'est un sujet qui pose problème et qui va poser beaucoup de problèmes.
Margaret?
Oui. Tout à fait, je vois toute la problématique, absolument. Il faut s'y préparer en s'attendant à ce que M. Halali soit présent, peut-être la personne d'Algérie aussi, au sein du comité exécutif, lorsqu'on approuvera ou pas le compte-rendu. Et il faut s'attendre à l'argument que portera, à mon avis, Monsieur Halali, qui consisterait à dire que lui, comme personne, comme personnalité, aurait été nommé ou admis à ce groupe de travail et que c'est pas l'Iran. Hein? Donc, il faudra que nous nous préparions à ce genre d'argumentation.
Arguments. Okay, we have four members there. You need to do your job also. We go to the other matters. Someone wish to talk? To have the floor? No. So, we'll finish our agenda. I need to say something. First of all, thank you for all of you for coming to Lisbon and to be available to work during all this morning with. We have a huge discussion about many issues, and I think that we are more prepared now to the Assembly. Our colleagues to the Executive Committee, we to our first meeting of the 12 plus and to the General Assembly. Thank you very much for all of you. I need to say thank you also to our interpreters. We are a little bit later and they are working. Thank you very much for your cooperation with our work. I need to say thank you also to the staff of the Portuguese Assembly, to Ana Margarida, and to the other colleagues. They do all the best to be successful our meeting. Thank you very much. And finally, I just need to say, I think I talked with some of you. We will try next year with more time, because yesterday evening, during our dinner, I contacted our president, and he answered this morning, is available to receive us during this afternoon. But as part of the delegations are not present, I say thank you to the president, and maybe next year with more time. And if you all know that, you will arrange the flights to be in the Palace of Belém and to be received by the President of the Republic. But I need to say thank you, of course, to our President, because he is available to receive our group. We have Robert and Christian.
Non, j'ai un mot, Président. important pour vous et pour l'UIP. Vous savez que moi, je vais terminer mon mandat au comité exécutif en octobre prochain. Ce sera ma dernière réunion en octobre, après des années de service. Je serai encore pour 2 ans à peu près parlementaire, et donc j'aurai peut-être encore une activité dans l'UIP en tant que membre de la délégation française. Mais je suis toujours soucieux, comme je vous disais, de l'avenir de l'UIP et de ce qui va se passer à l'UIP. Alors moi, j'arriverai à la fin de mon mandat, et je ne suis candidat à rien, ni au Sénat, ni à rien du tout. Mais je voulais quand même parler, parce qu'il y a des gens qui vont arriver à fin de mandat aussi, y compris le président. Le président va arriver à fin de mandat de son mandat de président du groupe de 12+. Alors, comme disent les poètes, le présent, c'est le passé de l'avenir. Donc, on est à un moment où on doit penser aussi à l'avenir. Et moi, je veux pas être inquiet sur l'avenir de l'UIP et du groupe des 12+. Et donc, ma question au président, moi, j'ai expliqué ce que j'allais faire à la fin de mon mandat. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que le président voudrait faire à la fin de son mandat de président des 12+, s'il voudrait continuer à travailler ou pas. Parce que s'il veut pas continuer, il va falloir trouver un volontaire qui s'engage pour que ça fonctionne. Alors, président, je suis désolé de poser la question en public et sans prévenir, mais vous savez que j'ai toujours des questions. Je suis un ancien journaliste, et donc je suis habitué à poser des questions. des questions brutales, quelquefois. Voilà. Donc, on lui laisse quelques minutes pour réfléchir ou pas?
Même pas.
Même pas.
Kristen, I will answer.
Now I had one thing, but now suddenly I have two. I will be short. I forgot during the Women Parliamentarians Forum to say that we are trying to recognize the Me Too movement in the IPU meetings. So we will start in Geneva, and I think that it will start with the women's meeting to put up the issue on the agenda in some way. And we are, of course, we understand that it could be difficult to have some result on the Geneva meeting, but we can start. And maybe we will have some sort of decision in Geneva meeting in October instead. But so you don't, I say it, so you will not be surprised when it comes on the agenda. When Robert said what he said, I thought I also need to say something. I will end my term in September. I'm going home to build up an organization in my constituency and in my municipality. And that would be interesting. But I will be with you until the 24th of September.
I will get to Funchal.
I will get there, yes. And I will be at the Nordic meeting some days later. But after that, the 24th, the new parliament is elected, and I will be looking at it instead of being involved in it. Thank you.
Thank you very much. Of course, one thing that we learn in politics is that we are making friends, and the friends will still after the end of the terms. And I have friends here in Portugal from all parties, and now I say I have friends also from many different countries as well. And because friendship is something that we may build in politics, not just to fight against us, but to have bridge and to know that we are all of us are trying to serve our countries, our parties, the best we can. About the question, I'm trying to read the statutes about the questions of Robert. I'm trying to read the statutes very quickly to know if we have a limit of terms. I didn't find. But I think that renovation is important as well, because if a person is still forever, it's important also it changes, because new blood, new ideas, new things. But one term is also maybe a small term to complete a job. So, if someone proposed me from the Portuguese delegation or other, I will be available to do the second term, but just a second term, and I will say that right now, not at the end of the second one.
Voilà. Bon, tout le monde propose.
Thank you very much. We'll go to the lunch in our new building. It will be a buffet, because it's more quickly, because I know that are some friends with Harry
bon,
to go to the flights.
Alors, il a accepté, finalement. Il a accepté, d'accord.
Allez, follow
on met ça au procès verbal.
Thank you very much. Only you to put the question.
Salila.
C'est bon, t'as la mutuelle pression de ses amis, comme on dit.
Yes.
Absolument. Bon, ça, il faut mettre ça dans la valise, ça va être un peu plus lourd. Oula, oui.
C'est bon. Sim,
mas é popular que são belgos.
Sim, é verdade.
Mas a opinião. Não, acho que foi mais para mim. Sinceramente, acho que foi muito. Não, acho que foi mais para mim.